Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Quelque part en 2023. Une rétrospective des faits marquants de 2023.
Bonjour tout le monde, ici Frédéric Labelle. Vous le savez probablement qu'on me surnomme l'anthropologue maison dans l'émission du matin au 98.5 FM à Montréal. Je suis aussi passionné par la politique et quand on mêle politique et anthropologie, ben ça donne un cocktail choc. J'ai moi-même œuvré en politique à l'arrière-scène pendant 2 ans très intense et connaissant l'envers du décor, les pièges et les entourloupettes du milieu, j'ai vraiment un plaisir fou à scruter les éléments parfois loufoques qui concernent nos politiciens, qui sont des petites bêtes bien spéciales, mais pour qui je voue un profond respect, peu importe les couleurs de leurs convictions. C'est pourquoi je voulais vous présenter ce bilan de l'année à saveur politique. Je vous souhaite donc la bienvenue à Quelque part en 2023. Et pour m'accompagner, nul autre que Philippe Léger, chroniqueur au 98.5 FM et analyste politique. Content que tu sois là, merci.
Salut Frédéric.
J'adore tes analyses, puis on va profiter de ton expertise pour commenter les moments forts de l'année qui étaient mouvementés. Est-ce que c'est un mot faible de dire que ça a été mouvementé cette année?
Ben, autant en politique fédérale qu'en politique provinciale, ce fut mouvementé. En politique provinciale, là, ça faisait 4 ou 5 ans que la coalition Avenir Québec caracolait dans les sondages aux alentours de quoi 38 à 42 et il y avait les 4 partis d'opposition agglutinés à 15 %. Ça bougeait pas. Il y
pas de visibilité.
Pas de visibilité, une pandémie, ça bougeait pas. Et là, tout d'un coup, en 2023, ça fut une année de, je veux dire, un séisme politique où la CAQ a perdu, quoi, 15 à 16 points de pourcentage et le Parti québécois est passé devant. Le Parti québécois, qu'on disait il y a un an, allait mourir. On écrivait son épitaphe, on disait que c'était la fin. On disait de Pascal Berbé que c'était le dernier péquiste.
C'est vrai.
Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Parti québécois est en tête dans les intentions de vote, dans les sondages. C'est une année fascinante et en politique fédérale, on peut dire que l'année a été marquée par la chute de Justin Trudeau et du Parti libéral du Canada. Au profit de qui? Au profit de Pierre Poilievre. Le Canada semble vouloir vivre dans les prochaines années son moment Poilievre.
J'ai le goût d'entrée de jeu, Philippe, de parler des politiciens sur les réseaux sociaux.
Ouais.
J'en ai beaucoup parlé dans la dernière année. C'est pas nouveau, là. T'sais, depuis la victoire de Barack Obama ouais. en 2008, c'est un incontournable. On a vu le premier ministre Legault manger des crottes de fromage, des pêtes de sœur, de la poutine chez Tiwi, Marc Tanguay faire du fat bag, Gabriel Nadeau-Dubois danser avec Manon Massé. Au PQ, tu parlais de Pascal ouais. Bérubé. Il est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. On a vu Paul Saint-Pierre Plamondon parler danois. Ils en ont fait des affaires. Bon, quelques niaiseries, mais on en fait quand même. Et plusieurs avaient trouvé leur air d'aller particulièrement sur TikTok avant qu'on ne l'interdise là, par crainte d'espionnage de la Chine. Je pense qu'il y avait juste les libéraux fédéraux qui n'étaient pas sur TikTok.
Les libéraux provinciaux non plus, je crois pas qu'ils le sont.
Dominique Anglade l'a été.
Oui, Dominique Anglade l'a été.
Ça n'a pas été un fort succès, mais elle l'a été.
Succès souvenir en 2022 lorsqu'elle avait dansé sur I Got a Feeling, juste avant le débat des chefs. Ça fait un moment mémorable. Je ne sais pas si ça présageait la suite, mais c'est sûr que la présence de politiciens, Frédéric, c'est pertinent sur TikTok. Pourquoi? Ben essentiellement parce qu'il y a une masse d'électeurs qui s'y trouvent, une masse d'électeurs qui sont de moins en moins devant, par exemple, le Téléjournal à Radio-Canada ou le TVA 18h à TVA, ce qui fait en sorte que pour les rejoindre, pour que leur message politique se fraye un chemin jusqu'à eux, ben c'est pas très, très compliqué, là. 1 + 1, ça donne 2. Faut les rejoindre où ils sont. Puis TikTok fait partie de ces plateformes-là très, très populaires chez les 18 ans.
Même si c'est parfois malaisant, c'est quoi la limite jusqu'où on peut aller pour un élu?
Je te dirais que il faut comprendre les codes, il faut comprendre les tendances et parfois c'est un peu contre-productif. Parce que si un politicien d'un certain âge va sur TikTok, qui fait une danse qui fonctionne pas vraiment bien, ça peut avoir l'effet contraire complètement. Ça peut avoir l'effet d'être un peu dépassé, de pas véritablement comprendre ce qui se passe. Par contre, il y a certains politiciens qui, même au Québec, qui réussissent véritablement à avoir une présence sur TikTok, mais sur les autres médias sociaux aussi, qui est assez impressionnante. Moi, je pense à Québec solidaire, je pense à Gabriel Nadeau-Dubois.
T'as raison.
Ça paraît qu'ils ont une équipe de communication extrêmement efficace. Ça paraît que chez les communicants, chez Québec solidaire, il y a des gens qui utilisent la plateforme parce que c'est souvent bien fait, c'est souvent efficace, ça a souvent une portée. Et c'est pas pour rien qu'on regarde les différents sondages chez les 18 à 34 ans qui dominent. C'est Québec solidaire. C'est pas l'unique cause, c'est pas l'unique facteur. Mais parmi tous les facteurs, il y a leur présence sur les médias sociaux, c'est sûr et certain.
Puis on veut pas faire de l'agisme parce que Sonia Lebel le fait très bien aussi sur ses réseaux sociaux. On a le goût d'être son ami.
Hey, écoute, je vous invite à aller voir les médias sociaux de Sonia Lebel. Il y a quelque chose d'attachant, il y a quelque chose d'un peu, je sais pas trop comment le définir, mais c'est la participation, on voit la vie, le quotidien de Sonia Lebel et on a envie de l'aimer comme ministre, comme politicienne qu'on voit ça.
Hey, le festival médiéval avec l'âne, puis le kit, puis le sable, là, juste à la veille des négociations, je trouvais que c'était quand même assez puissant.
C'est des tours à son chalet, ses vidéos de chasse et tout, oui. Quelque chose d'attendrissant là-dedans.
Un moment marquant de l'année, c'est le 13 mars dernier, l'élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne pour succéder à Dominique Anglade, la chef démissionnaire du Parti libéral. On en parlait, elle a dansé, mais à un moment donné, elle a arrêté de danser. Les libéraux ont perdu le comté au profit de Québec solidaire et je dois avouer que la partielle a été divertissante par l'exubérance de certains candidats. Le seul, je te dirais, qui a été capable de garder le cap, c'est Guillaume Clich-Rivard, le gagnant. Oui. On l'a vu dans les résultats. Mais j'ai vraiment été sous le choc de lire tout ce que le candidat libéral Christopher Banninger a écrit sur Twitter avant sa performance comme candidat. Et quand on dit que tout est une question de perception, disons que la perception que ça envoyait, c'était pas terrible.
C'était pas terrible, exactement. Il écrit toutes sortes de choses. Moi, je suis toujours fasciné par ça. Quand tu te lances en politique, il me semble que la job numéro un de celui qui se lance et la job numéro un du parti, c'est de dire, hey, on va aller regarder ce qui s'est dit sur les médias sociaux, les réseaux sociaux de nos candidats. Tu sais, c'est un peu le calvaire des politiciens, là. À chaque fois, à chaque campagne électorale, à chaque élection, il y a tout le temps des candidats qui se font prendre à avoir dit des choses qui avaient aucun bon sens sur leurs médias sociaux. Des fois, ça fait comme quelques semaines, là. Je veux dire, moi, si on va voir mes médias sociaux de mes statuts que j'ai faites quand j'avais, 14, 15 ans.
Ah non, c'est moi aussi, je pense pas que ça serait glorieux.
C'est ça. Mais je pense pas que j'aurais soutenu la Russie, par exemple. Je pense pas que j'aurais été là-dedans. Fait que,
ouais. Mais ça, c'était le candidat d'Éric Duhaime. Exactement. Le candidat Lucien Coty qui avait parlé de l'invasion de l'Ukraine avec des propos décousus sur la Russie. Banninger, je veux revenir là-dessus. Écoute, a tweeté publiquement au millionnaire Michael Bloomberg, milliardaire même, pour lui demander de l'aide financière pour un bureau à New York. Elon Musk, il a écrit des courriels à Elon Musk, puis comme c'était pas assez, Elon n'y a pas répondu, donc il a tweeté « You, Elon, je suis là », a invité publiquement à une fête Paul McCartney. Il n'y a absolument aucun lien qui unit ce gars-là à Paul McCartney. Disons que c'est pour un party comeback après COVID, c'est ce qui était écrit pour les optimistes et bons vivants de partout dans le monde. C'est quelque chose, là.
Que dire de plus? C'est sûr que quand ce genre d'événement-là arrive, c'est pas très, très important en termes de politique. T'sais, ça définit pas ce qu'un politicien propose, le candidat libéral, pas parce qu'il parle de Paul McCartney ou l'invité à son party d'après COVID, que ça nous en dit long sur les politiques qu'il propose.
Mais en même temps, si j'invite Paul McCartney, ils vont dire quel hurluberlu, je ne connais pas Paul. Là.
Exactement, mais c'est juste que ça joue sur les perceptions du jugement du candidat. Puis c'est sûr que ce genre de choses-là peut affecter la réputation pendant une semaine ou deux. Et là, ça nous fait dire, est-ce qu'on veut vraiment voter pour un candidat de ce genre-là? C'est sûr que ça nuit aux politiciens, ce genre de controverse-là qui dure pendant quelques jours, quelques semaines dans les médias.
Il y a eu d'autres candidats qui ont vécu des moments plus difficiles. Victor Pelletier de la CAQ qui, lui, fait rire de lui pour ses vestons trop grands et son allure physique. Il a fait des publications pour dénoncer la haine qu'il a reçue sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Andréane Fiola qui était la candidate du PQ. Femme super brillante, soit dit en passant, qui avait déjà fait une vidéo érotique qui s'est retrouvée sur un site 3X. Paul Saint-Pierre Plamondon avait pris sa défense et tant mieux, je pense, en tout cas. Qu'est-ce qui est d'intérêt public et jusqu'où on va dans ce genre d'informations-là dans une campagne électorale?
Bon, ce qui est d'intérêt public là, dans ce genre de... Quand on fouille sur les traces numériques qu'ont laissé certains candidats ou candidates. Bon, tu sais, quand un candidat appuie dans un message complètement décousu la Russie sur l'Ukraine, bien sûr, c'est l'intérêt public. Là. Il faut le savoir avant de voter pour un candidat si, par exemple, il appuie la Russie. Mais... Par exemple, des vidéos érotiques qui auraient pu être faites dans le passé ou le fait que le candidat caquiste a des vestons trop grands. Moi, je pense qu'on peut se questionner comme média de l'attrait puis l'intérêt public de ces nouvelles-là, c'est sûr que ça attire l'œil. C'est sûr que ce sont des sujets puis des nouvelles tapent à l'œil et les gens vont cliquer, on va vouloir. On a toute cette curiosité-là morbide alentour de, tu sais, en nous.
Morbide, rien de moins.
Ouais, voilà, mais tu sais, en nous, ce qui fait en sorte que, je veux dire, pour moi, ce sont des choses qui sont pas très, très importantes, mais qui, tu sais, même aujourd'hui, on en parle, fin d'année, on est obligé d'en parler parce que ça a marqué l'année politique. Mais est-ce que c'est véritablement l'intérêt public? Moi, je pense que non.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Autre truc d'intérêt public, ben les faits et gestes sont scrutés du premier ministre Legault, qui est un roi du small talk, ça je l'ai dit souvent. C'est l'art de pas dire grand-chose, de combler du vide. Il y en a qui sont bons là-dedans, d'autres qui sont moins bons, et lui est excellent. Même si parfois, ça peut être malaisant. Et si vous n'avez pas entendu François Legault faire du small talk, suffit de prendre un extrait où il parle à des enfants à l'Halloween pour comprendre le phénomène.
Salut! Toi, t'es déguisé en quoi? Une fille fofolle. Une fille fofolle. T'aimes-tu ça faire la fofolle? Oui, joyeux Halloween. Mais là, j'ai des bonbons pour toi. Hey, c'est trop gentil. Je peux-tu t'embrasser et te dire merci? Comme là, je te donne un petit sac. Bon Halloween.
Et ces vidéos qui, son premier contact se fait toujours avec un bonjour tout le monde. Et ça a inspiré son podcast qu'il a lancé au mois de mars qui s'appelle Bonjour tout le monde. C'est un autre dossier qui a fait beaucoup réagir cette année. Quand j'ai entendu ce titre-là, je me suis dit pour l'amour du ciel, où c'est que ça s'en va cette affaire-là? Je m'attendais à bien des choses. J'ai visionné les épisodes. C'est pas mauvais. C'est sûr que c'est pas transcendant, là. C'est pas des entrevues à la Jimmy Fallon avec plein de surprises. C'est un peu long, des fois. Son équipe voulait pas l'enfermer non plus dans un carcan. Il rencontre des gens qui font l'actualité, du milieu culturel, des sportifs. Il y en a eu plein, là. Puis de bons invités, un peu comme Valérie Plante l'avait fait avec ses chaises de parterre. Avec du recul, une année plus tard, presque, est-ce que c'était une bonne chose?
Ben, je vais répéter ce que t'as dit. C'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. Moi, ça ressemble à une infopub gouvernementale. Je sais pas en quoi c'est utile. Ça me semble davantage être une idée de communicants qui sont autour de François Legault, qui se cherchent un peu de la job. Parce qu'on regarde ça. Moi, t'es à la radio chaque jour. Je fais des chroniques politiques chaque jour. Et jamais je me suis dit, hey, faut que j'aille regarder le podcast de François Legault parce que ça va me donner une information nouvelle, ça va me donner une perspective différente sur le premier ministre qui va me permettre d'avoir des meilleures analyses. Moi, ça me semble davantage être une publicité gouvernementale qu'on met sur YouTube plutôt que véritablement quelque chose de transcendant.
Puis il manquait pas de visibilité non plus. Si on avait vu, par exemple, un podcast du Parti libéral ou du Parti québécois, peut-être qu'on aurait plus compris. Mais écoute, je regardais des chiffres fournis par Pierre Gens de Mesure Média qui voulait démontrer la visibilité de M. Legault. Dans le premier trimestre de 2023, le nom François Legault a été mentionné à plus de 40 000 reprises dans les médias. Pour un comparatif, le Martin Saint-Louis, le coach du Canadien, moins de la moitié. Mmh. C'est énorme. Donc, il n'y avait pas un déficit de visibilité pour créer un podcast.
Mais peut-être que lui, sa volonté, puis la volonté de l'équipe Legault, c'était un peu de détourner le message des médias, le filtre médiatique, d'avoir un lieu où François Legault peut parler à un invité, mais aussi parler directement aux électeurs. Par contre, Éric, là, tu m'as donné des statistiques. Si on regarde les statistiques de son balado, on peut pas dire que c'est un endroit prisé par les Québécois présentement. Quelques mille, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais je veux dire, on n'est pas dans les codes d'écoute de la petite vie ici, là.
C'est une bonne référence. Un qui a attiré l'attention, puis je vais y revenir, mais c'est Éric Duhaime. Puis je vais parler d'événements sociaux qui ont pris une saveur politique. Je vais t'en nommer quelques-uns. Et c'est une énumération, puis tu vas comprendre par la suite où je m'en vais. D'abord, Mix Martin. Ça, c'est une histoire qui a commencé avec la direction de l'école de Richelieu qui a envoyé une communication aux parents de deux groupes de 5e et 6e année du primaire. On a expliqué que deux enseignantes de ces groupes-là ont des tâches allégées, que des personnes vont leur donner un coup de main, dont une personne qui utilise un titre non-genré. Donc, pas madame, pas monsieur, la personne veut qu'on l'appelle Mix. Par exemple, au lieu de m'appeler Monsieur Labelle, ben, ça aurait été Mix Labelle. Et le communiqué a été partagé sans nécessairement le consentement des personnes. Sur les réseaux sociaux, les parents ont été très divisés et plusieurs se demandaient est-ce que c'était nécessaire, et c'est devenu vraiment, écoute, même les personnes citées dans le communiqué ont reçu des menaces de mort. Ça, c'est un sujet. Il y en a un autre aussi. Les manifestations contre les drag queens qui lisent des contes dans les bibliothèques, dont la drag queen Barbada, qui est le personnage de Sébastien Potvin. M. Potvin, qui est enseignant de formation, profite de son alter ego en couleur, haute en couleur, le Barbada, pour faire l'heure du conte pour les tout-petits dans les bibliothèques. Très, très populaire. Il a une émission sur tout.tv. C'est ludique, c'est drôle, c'est coloré. Il n'y a rien de déplacé là-dedans. On n'est pas dans un spectacle de drag queen à 2h du matin dans le village. C'est pas ça du tout. Puis c'est pas mieux non plus que... C'est pas plus niaiseux que Daniel Proulx déguisé en chien vétérinaire pour Cornemuse. Là. C'est complètement ludique. Et il y a eu un mouvement de contestation. C'est rendu que même la police a dû intervenir pour assurer la sécurité. Et troisième événement, l'histoire d'un bricolage, la fête des mères qui dégénère sur les réseaux sociaux à l'école des Chanterelles à Québec, deuxième année. Et si on résume avec nuance, ben c'est qu'il y a des enseignants qui ont décidé de faire un bricolage pour les parents parce qu'il y avait dans certaines classes plusieurs cas de DPJ, donc pas de maman. Et on a dit dans un communiqué, considérant l'hétérogénéité des familles de nos élèves, nous avons décidé de ne pas souligner la fête des pères ou des mères, donc la fête des parents. Et je pense que c'est le mot hétérogénéité qui a fait peur au monde, je sais pas trop, là. Mais ça a été repris comme si on voulait remplacer le mot mère. Et là, tu me vois venir, un point en commun entre ces trois histoires-là, Éric Duhem. Est-ce que c'est pas un peu jouer avec les cordes sensibles pour manipuler l'opinion publique de la part de M. Duhem?
Ben, ici, on est au cœur, je pense, de la démarche d'Éric Duhem comme politicien. D'abord, Éric Duhem, ce qu'il aime, c'est attirer l'attention, faire parler de lui. Il pense que faire parler de lui, ça va lui permettre d'aller chercher des nouveaux électeurs. Plus on entend le nom d'Éric Duhem dans les médias, plus ça lui permettrait d'aller chercher puis de parler à des électeurs puis, tu sais, ultimement, aller chercher leur appui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Éric Duhem se cherche des sujets qui lui permettent de faire ce qu'on appelle en politique du wedge politique. Bon, wedge politique, c'est une traduction pour dire des sujets qui divisent, qui polarisent. Et quand on représente un des côtés du sujet, on veut fédérer les électeurs qui sont ou qui pensent essentiellement comme soi. Ceci étant dit, ça, c'est la stratégie d'Éric Duhem. Moi, je suis pas trop sûr de l'efficacité de ce genre de stratégie en politique.
Pas viable à long terme.
C'est pas viable à long terme parce que de l'attention médiatique, tu sais, ça reste, Frédéric, de l'attention médiatique quand il n'y a pas de substance, quand il n'y a pas de solution et quand ça reste simplement une complainte d'un politicien. Parce que si Éric Duhem serait arrivé en disant, écoute, ça existe, voici la solution, je suis persuadé que, ou en termes de politique publique, si par exemple Éric Duhem, bon, c'est quelqu'un qui est à droite sur l'échiquier politique, arriverait et dirait, je te donne un exemple parmi tant d'autres, arriverait et dirait, écoutez, le monopole de la SAC, ça suffit. Je veux dire, ça, en termes de substance, là, je te donne un exemple économique parmi tant d'autres. En termes de substance, ça lui permettrait d'avoir, disons, des bases beaucoup plus solides que arriver puis dire, ah, les drag queens, faut faire attention, faut protéger nos enfants. Tu sais, reprendre cette phrase-là, là, qui circule sur les médias sociaux, protéger nos enfants. Moi, je suis pas sûr que ça a une efficacité à long terme, ce genre de démarche-là chez Éric Duhem. Faudrait le voir pour 2024, mais moi, je doute de plus en plus qu'en 2024, Éric Duhem restera chef du Parti conservateur du Québec. Il y a des élections qui s'en viennent en 2024, en 2025 au fédéral. Éric Duhem parle le même vocabulaire, a les mêmes préoccupations, pense essentiellement la même chose que son collègue conservateur du Parti conservateur fédéral, Pierre Poilievre. Moi, je serais pas surpris qu'un jour, Éric Duhem fasse le saut en politique fédérale.
Et c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de rumeurs-là. C'est arrivé dans le passé. Puis j'aimerais conclure ce segment-là avec un extrait de Régine Laurent qui a été mémorable dans son édito sur le sujet à LCN avec Paul Larocque sur tous ces dossiers-là. Et ça venait du cœur. On peut l'entendre. Ça a été un moment assez marquant cette année.
Ils ont comparé les drag queens au blackface. Je leur dis une seule affaire. Trouvez-vous d'autres comparaisons, trouvez-vous d'autres arguments, sinon, vos gueules.
Merci, Régine.
Merci, Paul.
Ça venait du cœur.
Merci, Paul.
Merci, Paul.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Et là, il y avait une parcelle aussi, on a parlé dans Saint-Henri-Sainte-Anne, mais dans Jean Talon, et ça a été la valse des limousines caquistes. Sur les réseaux sociaux, tous les ministres, on les voyait rencontrer les gens, donner des poignées de main, faire du porte-à-porte. Et ça a été le début de la débandade de la CAQ, je me trompe?
Ben moi, pour moi, la partielle de Jean Talon, c'est l'événement politique de l'année. Pas parce que les gens vont dire ce fut un événement important, mais parce que ça confirmait un narratif qui s'installait de plus en plus dans la tête des électeurs. Le narratif, c'est quoi? Essentiellement, c'est un récit politique qu'on se raconte. Et là, qu'est-ce qu'on voyait avec ça? Qu'est-ce qu'on voyait avec la défaite de la CAQ dans Jean Talon? On disait, bon, voici la preuve que la CAQ fait mal les choses en 2023. Et voici la preuve qu'il y a une affection entre les électeurs et Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Quand les électeurs se rendent aux urnes, il y a tout le temps une confirmation de ce qu'on entend, de ce qu'on se dit tous ensemble, que ce soit dans nos soupers de famille, que ce soit à la radio, que ce soit un peu partout près de la machine à café. Quand les électeurs se rendent aux urnes, ça confirme quelque chose que tout le monde se dit. Et la partielle de Jean Talon qui est arrivée après la saga du troisième lien, c'était la confirmation qu'il se passait quelque chose en politique provinciale. Et c'est à ce moment-là que l'aiguille a véritablement commencé à bouger en défaveur de la CAQ et en la faveur du Parti québécois.
Et le PQ a été extrêmement bon sur les réseaux sociaux. Ils ont utilisé notamment la première bande-annonce de Lance et Compte pour annoncer l'arrivée de leur nouvelle recrue. On a parlé en termes de hockey, Pascal Paradis, que tu vois dans le générique d'ouverture. Bon, tu vois Paul Saint-Pierre Plamondon, l'effet vintage des années 80. Même les commentateurs politiques ont été très, très élogieux par rapport à la créativité du PQ. Puis j'avais envie de connaître l'histoire derrière le concept et l'utilisation des images de l'œuvre de Régent Tremblay. J'ai laissé un coup de fil au principal intéressé. On m'a dit que le contact s'était fait naturellement, évidemment rapidement. Je vous laisse entendre Régent Tremblay là-dessus.
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, ça, j'ignorais ça. Il connaît toutes les répliques de l'ancien compte par cœur. C'est pas compliqué. Il connaissait l'œuvre. Il voulait être sûr que ça me froissait pas. Ben, j'ai dit, mais au contraire, je suis honoré. Moi, si ça peut aider à ce que les Québécois s'allument un peu, c'est parfait. Il me l'a montré dans un café à Québec. C'était bien fait. C'est un clin d'œil à des Québécois capables de gagner.
Visiblement, ça a marché. Ils ont gagné. Et là, Pascal Paradis est à l'Assemblée nationale, de caucus de quatre députés. Et on a ri, notamment, à Tout le monde en parle, Guy Lepage, qui a posé cette question-là à messieurs Plamondon et Paradis.
Est-ce que ça va changer concrètement de passer de trois à quatre députés, à part, évidemment, de profiter de la promotion familiale 4 chez Saint-Hubert?
J'avais pas pensé, mais je prends une photo aussitôt qu'on est chez Saint-Hubert.
Ouais, ça a l'air que s'il y en a un cinquième, là, il y a 8 ailes gratuites à la cage.
Et la photo a été prise. Ça a été extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Donc, les gens du PQ savent quand même bien passer leur message sur les réseaux sociaux.
Écoute, Frédéric, le restaurant Saint-Hubert en politique, c'est probablement le restaurant le plus populaire.
Après Normandin, peut-être.
Après
aussi.
Normandin ou le Madrid entre Montréal et Québec.
Et je veux parler, c'est inévitable en terminant de parler de Bernard Drainville. Si en 92, la reine Élisabeth a parlé de son anus horribilis, est-ce qu'on peut dire que c'est l'anus horribilis de Bernard Drainville?
Écoute-moi, ça me fascine un peu l'année 2003 de Bernard Drainville. C'était l'année de toutes ses espérances. Bernard Drainville revenait en politique après quelques années à la radio. Il avait quitté la politique en 2016, un peu dans certaines difficultés après la charte. C'était quand même assez difficile pour Bernard Drainville. Et là, il retournait à la Coalition Avenir Québec. Et là, on pensait, voici son retour. Et même la légende disait, Frédéric, que Bernard Drainville rêvait secrètement à la succession de François Legault. Oui. Voici quelqu'un qui avait un profil politique assez similaire de François Legault, un nationaliste, ancien souverainiste ou encore souverainiste, mais ailleurs, on le sait pas trop, selon l'expression qui a été utilisée par Bernard Drainville. Et là, on pensait, ben, au ministère de l'Éducation, oui, c'est un ministère casse-cou, mais quand même, c'est un peu moins casse-cou qu'une charte des valeurs, par exemple. Et Bernard Drainville rêvait, disons, un retour en politique soit plein de gloire. Et faut dire que ce fut un peu l'inverse en 2023. Ce fut une année extrêmement difficile pour Bernard Drainville en politique, pour toutes sortes de raisons. Et ce qui me fascine encore plus, Frédéric, c'est que ce fut une année difficile en raison de Bernard Drainville et non en raison des politiques qu'il a mis en place. Bernard Drainville, en fin d'année, a fait adopter son projet de loi 23 sur la réforme en éducation. Et pour une réforme en éducation, là, les critiques ont été relativement timides. Peu de personnes.
Ça a passé dans le beurre, littéralement.
Ça a passé dans le beurre. C'est une réforme qui est quand même assez imposante et il n'a pas été véritablement critiqué sur la réforme. Il a été critiqué sur des gaffes qu'il a accumulées un peu malgré lui. moi, j'ai envie de te dire, chez Bernard Drainville, il y a un côté, des fois, qui est attendrissant, qui est attachant, mais parfois, il y a comme ce côté-là qui peut pas se retenir d'en faire un peu trop pour la galerie. Je veux dire, chanter tonne d'automne.
Mais c'est ça, attends une minute, là, un instant. Là. J'ai des exemples, puis je vais y aller chronologiquement. Semaine des enseignants et enseignantes. Oui. Il a partagé des souvenirs avec une enseignante et qui l'a marqué dans sa vie, et c'est devenu rapidement macabre.
Pilou, c'était le chien de la famille, puis il a été tué par une voiture. Puis c'est moi qui l'ai trouvé sur le chemin, qui l'a pris, qui l'a amené, qui l'a enterré, tout ça. Alors, j'ai raconté ça dans mon petit travail, et Mme Milot m'a choisi pour présenter mon histoire aux élèves de la classe. Si vous saviez comment ça m'a fait du bien, si je suis devenu journaliste, si aujourd'hui je suis devant vous, c'est peut-être un petit peu, peut-être même beaucoup, à cause de Claudette Milot.
Hey, le chien est mort. C'est quelque chose. Et c'est pas tout. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Les pleurs du troisième lien, tu te rappelles de ce moment-là? On peut l'entendre.
Je vous le dis... D'emblée, c'est un sujet très émotif. Je m'étais parlé. Je veux d'abord présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et donc, je comprends leur déception, je comprends leur colère et je suis vraiment désolé.
Ça, c'est un exemple très triste et des émotions, il en a vécu aussi au décès de Carl Tremblay en plein point de presse à l'Université Laval. Il est allé de son authenticité, je peux pas dire autrement, et ça a donné ce moment-là.
On va chanter une toune des Cowboys. Ça va prendre 3 minutes, mais je trouve que c'est un bel hommage à rendre à Carl Tremblay. Je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de voir partir ma mignonne. Ça va bien, ça va bien.
Non, ça va pas bien. Je peux pas croire qu'on a pensé que c'était une bonne idée.
Mais derrière ça, il avait demandé aux journalistes et aux gens dans la salle de chanter avec lui.
Tu sais bien que personne va chanter.
Personne n'a chanté, malheureusement, pour Bernard. C'est un peu une année malheureuse pour lui parce qu'il a même accumulé les surnoms. Notre collègue Patrick Lagacé l'a appelé le boss de rien. Bernard Lagaffe, Bernard Drainville, ça circulait
Bernard
beaucoup.
Bernard Drainé.
Bernard Drainé aussi, ça a beaucoup circulé. Bernard Drainville, dans la dernière année, fut une inspiration pour tous les gens qui font des mimes sur Internet et font de la caricature, que ce soit pour Chapelot ou différents sites sur Instagram qui font des mimes. Je veux dire, il nous donne du bon stock pour nous.
Ah, totalement, oui.
Il nous donne du bon stock pour faire de la bonne radio.
Mais humainement, on lui en souhaite une plus légère. Et j'ai envie de parler en terminant de 2024. On s'en va où? Est-ce que François Legault continue sa chute libre? Même chose pour Justin Trudeau. C'est quoi le pronostic? Qu'est-ce qu'on surveille en 2024?
Bon, commençons par François Legault. C'est sûr que 2024 risque d'être une autre année difficile pour François Legault. Pour deux raisons, essentiellement. La première, c'est quand ça va mal, Frédéric, dans un parti politique, souvent tu peux te rabattre sur, disons, une colonne vertébrale idéologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent essentiellement la même chose, et quand ça va mal, ben, on se rabat là-dessus, puis on se dit, ben, au moins on croit à ça, puis on fonce. Le problème à la Coalition Avenir Québec, c'est que c'est une coalition. Il y a des gens qui pensent différemment sur une tonne d'enjeux, ce qui fait en sorte que lorsque ça va mal, ben, c'est difficile de ramener tout ce beau monde-là puis de dire, écoutez, on s'en va dans cette direction-là parce que la plupart des ministres, la plupart des députés pensent qu'il faut aller dans différentes directions. Donc, ça donne un peu des difficultés. La deuxième chose, je pense que la dernière année pour la Coalition Avenir Québec, ce fut une année d'abord difficile pour François Legault et il a traîné son parti vers le bas. Il a traîné son parti vers le bas. Pourquoi? Parce que, je veux dire, des fois, pour un premier ministre, ça peut mal aller. Ça peut mal aller, mais étant donné qu'il y a un parti politique qui est fort, ça peut, tu sais, les dégâts peuvent être un peu
limités.
Mais étant donné que le parti, la CAQ, est construite alentour de François Legault, alentour de sa personnalité, quand le lien de confiance entre les Québécois et le PM Legault s'effrite, je veux dire, c'est extrêmement difficile après ça de rapiécer les pots cassés puis d'essayer de regagner le respect. Moi, je dirais une dernière chose pour François Legault pour 2024. Et ça va être particulier concernant ma position. Je lui conseillerais de lâcher les sondages quelques instants puis d'essayer de gouverner selon l'intérêt général. Là, il a perdu beaucoup de points. Ça sert à rien d'essayer de donner les Nordiques à Québec pour aller chercher 5-6 points de pourcentage à Québec, de donner un stade olympique à Montréal, qu'il gouverne selon ce qu'il pense, selon ses convictions, selon l'intérêt général. Puis je suis persuadé qu'après ça, le respect entre les Québécois et lui va pouvoir être, réparé. Et après ça, il pourra peut-être aller chercher des appuis dans la population, des intentions de vote, des points de pourcentage. Mais avant ça, moi, j'ai de la misère à voir comment il va pouvoir, en 2024, rebâtir la confiance entre sa personne et ses électeurs.
Et rapidement, au fédéral?
Bon, moi, la question que je poserais, c'est pas si ça continuera de mal aller pour Justin Trudeau, mais c'est une autre question. Est-ce que Justin Trudeau sera encore premier ministre du Canada en 2024? Cette question-là, c'est une réponse en soi. Pour moi, ça va continuer à mal aller pour Justin Trudeau. Moi, j'ai l'impression que les Canadiens sont un peu las de Justin Trudeau. Et inversement, Justin Trudeau commence à être un peu las
de
Justin Trudeau puis de gouverner les Canadiens. Donc, ce mix-là, généralement politique, ça donne pas des résultats très, très concluants. Et comme je te l'ai dit en début d'émission, il y a comme une sorte de sentiment général au Canada. Les Canadiens semblent vouloir vivre leur moment Poilievre. On verra ce que ça va donner. Mais quand on regarde les sondages aujourd'hui, quand on regarde l'état général des Canadiens, on peut se dire que la carrière de Justin Trudeau dans la prochaine année va être souvent remise en question. Et j'ai de la misère à voir comment lui aussi va pouvoir regagner la confiance des Canadiens.
Mais le temps est long en politique, puis on va surveiller ça de très, très près. Merci d'avoir été là et bonne année 2024. On va surveiller ça, évidemment, avec attention.
Bonne année en 2024 à tout le monde.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.